Il est 7h donc.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 24 septembre, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les feux de la colère. Des centaines d'agriculteurs ont brûlé cette nuit bottes de paille et palettes de bois pour dire leur incompréhension. Face aux critiques et aux agressions qui se multiplient, nous les entendrons dès le début du journal après les autres titres.
L'ouverture des débats sur la PMA à l'Assemblée, les couples de femmes redoutent un climat délétère. Ces jours de grève à la SNCF contre la réforme des retraites. Portrait dans le journal du président israélien à qui revient la lourde tâche de désigner le futur Premier ministre. Et puis toc contre macaron quand Marc Vera attaque en justice le guide Michelin pour une étoile perdue.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Greta Thunberg assigne la France et 4 autres pays en justice pour non-respect des obligations environnementales. La jeune activiste va-t-elle trop loin ? On pose la question à la secrétaire d'État Brune Poirson qui présente cette semaine sa loi anti-gaspillage pour lutter contre le plastique.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien avec l'avocat et écrivain François Sureau. Il publie « Sans la liberté » chez Gallimard. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Des feux dans la nuit, les feux du désespoir, disent ces agriculteurs d'Île-de-France, de la Marne, de Haute-Garonne, du Pas-de-Calais, pour exprimer un malaise. Depuis plusieurs mois, ils dénoncent les agressions, les stigmatisations, les insultes, les intrusions. Ces agriculteurs à qui l'on a demandé pendant des années de produire toujours plus, disent être devenus des boucs émissaires. Manuel Ruffez les a suivis dans l'Essonne. Reportage.
Il est 20h, ils sont quasiment prêts. On est aux portes de la ville d'Étampes, dans un champ. Un grand trou, des palettes entassées là, le feu va bientôt prendre.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là ?
Un feu pour montrer la colère de la profession. Qu'on entend sans arrêt qu'on tue, qu'on donne le cancer avec les phytos, je veux dire, sans arrêt on entend ça aux infos et c'est un peu agaçant.
L'utilisation des phytos, des pesticides, c'est ce qui a mis le feu au brasier. Cette histoire de distance, 150 mètres ou 10 ou 5, zone à ne pas traiter, ils n'en veulent pas. Comme Lucie, ils disent qu'ils savent travailler.
On est tous formés pour ça, et en plus de ça, on fait déjà ce qu'il faut. Enfin, souvent, on traite à côté des clôtures, enfin, ça passe du bon sens. On traite sans vent, enfin, 20 km devant, vous ne les ressentez pas, et pourtant, nous, on ne sortira pas notre pulvérisateur.
Et ce qu'ils décrivent tous est effrayant. Une ambiance délétère. L'agriculteur bouc émissaire, Damien Greffin, le patron de la FRSEA Île-de-France, peut en parler.
Tous, hein, on est pointé du doigt, pris en photo, c'est-à-dire que vous arrivez en bordure de route avec votre tracteur, on vous prend en photo et avant que vous soyez arrivé, la voiture est repartie. C'est des insultes, des bras d'honneur. Il y a même un certain nombre d'agressions physiques où on monte sur votre tracteur comme ça, avec un fusil, comme c'est arrivé en Seine-et-Marne la semaine dernière.
On fait ce métier pour nourrir les hommes, pas pour les empoisonner. C'est le message qu'ils veulent faire passer.
Des agriculteurs qui effectivement insistent sur la nécessité de renouer le dialogue via notamment une initiative dont France Inter vous avez parlé, le numéro Ici la Terre, qui permet de dialoguer en direct avec un agriculteur. Pas de blocage envisagé pour l'instant, ces feux de la colère devraient se poursuivre tout au long de la semaine.
Il est 7h03, l'actualité ce matin, c'est aussi le début de l'examen du projet de loi de bioéthique à l'Assemblée.
Et de son article premier qui concerne l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, promesse du candidat Macron, le projet est soutenu par la majorité, même si le texte divise au sein même des partis. Les femmes concernées, elles, attendent avec impatience l'adoption de ce texte, mais appréhendent aussi le retour des discours radicaux. Agnès, 46 ans, est la maman d'un petit garçon conçu à l'étranger avec sa compagne. Elle devrait notamment s'abstenir de consulter les réseaux sociaux dans les prochains jours.
On coupe tout. Parce que ça va encore être des paroles violentes. On sait que ça va ouvrir des espaces où il n'y a plus de modération. Cachés par des pseudonymes, on se lâche avec des mots très violents qu'on n'oserait même pas dire en face de gens. Voilà, donc oui, on referme les réseaux, on ferme les réseaux sociaux, on n'écoute que des informations sélectionnées. J'ai tendance à fermer aussi la radio quand il y a certains invités qui sont là pour protéger notre enfant et pour se protéger nous. Parce qu'en plus, ça va passer. C'est violent, ça fait mal, mais nous, ça va passer. Voilà. Et puis surtout que notre bonheur est vraiment supérieur à tout ça.
Un témoignage recueilli par Lisa Guyenne à retrouver sur franceinter.fr. Les débats qui vont durer 3 semaines avec plus de 2500 amendements déposés. Et c'est une autre réforme voulue par le gouvernement qui provoque aujourd'hui un mouvement de grève à la SNCF contre la disparition du régime spécial de retraite dont bénéficient les cheminots, appelés à manifester à Paris cet après-midi entre République et Nation. Côté trafic, 2 trains intercités sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Transilien sur 2 circulent en moyenne. jamais 203 avec la réforme à présent de l'assurance chômage. Une étude de l'UNEDIC publiée aujourd'hui confirme le fort impact pour les allocataires. Lors de la première année de mise en œuvre globale de la réforme, parmi les 2,6 millions d'allocataires qui auraient ouvert un droit avec l'ancien système, 9% n'ouvriront pas de droit avec ces nouvelles règles et 41% verront leur situation changer, soit avec une baisse de leur allocation journalière, soit une ouverture de droit retardée ou une durée de droit plus courte. Le gouvernement table sur près de 3,5 milliards d'euros d'économies. Autre chiffre ce matin, celui de l'épargne des Français sur les livrets A. Malgré un rendement très faible, 0,75%, rien ne semble affaiblir l'attractivité de cette épargne, avec près de 300 milliards d'euros actuellement déposés sur les livrets A, un record. Première réunion aujourd'hui sur le comité de suivi mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour accompagner au mieux la réforme du lycée. Des réunions sont prévues tous les deux mois jusqu'en juin. Des ajustements sont possibles, avait affirmé Jean-Michel Blanquer lors de sa conférence de presse de rentrée. Et c'est bien ce qu'espèrent les organisations de l'éducation. Sonia Princé.
Les syndicats et autres organisations de l'éducation ne veulent pas d'un comité Théodule de plus. Ils souhaitent des améliorations concrètes. Le premier point à l'ordre du jour devrait porter sur le groupe classe. Avec les différentes spécialités et combinaisons, les élèves ont des cours différents, une multitude de professeurs, ce qui posera des difficultés pour les conseils de classe par exemple, comme le dit Hubert Salin, porte-parole de la PEP, Fédération de parents d'élèves.
Pour une même classe, il peut y avoir 8, 10, 12 professeurs de spécialités différents. Alors on peut se dire on va faire un conseil de classe à 35, mais ça ne va pas marcher. On ne va pas non plus supprimer plein de cours parce que tous les professeurs seront en conseil de classe à ce moment-là. Donc il va sans doute falloir réimaginer quoi faire du conseil de classe.
Deuxième sujet que le comité de suivi abordera, les modalités du contrôle continu. Les premières épreuves communes auront lieu en janvier. Faut-il les organiser partout au même moment ou laisser plus de souplesse aux établissements? C'est cette dernière solution que préconise Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, syndicat des proviseurs.
On a le sentiment que d'une part, c'est plus en phase avec l'idée qu'on se fait du contrôle continu et que deuxièmement, ce serait sans doute moins perturbateur pour le fonctionnement d'ensemble des établissements. Donc il va falloir qu'on trouve d'expérience le bon modèle pour éviter de perturber les autres niveaux que le niveau première cette année.
Sur tous ces sujets, le comité de suivi fera des préconisations. Le ministre décidera ensuite de les mettre en œuvre ou non.
Il est 7h07, l'Iran, Agnès, l'Iran au cœur de toutes les discussions à New York.
Et le suspense demeure sur une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Hassan Rouhani en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Emmanuel Macron poursuit sa mission de médiateur. Il a rencontré brièvement ce matin Donald Trump après avoir discuté hier soir avec le président iranien. Dans un communiqué, l'Élysée estime que le moment est venu pour l'Iran de choisir la voie de la désescalade. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Lui va devoir choisir le futur chef de gouvernement d'Israël. Reuven Rivlin, le président israélien, plaide pour un gouvernement d'union nationale entre les deux partis. Arrivé en tête aux élections législatives, Bleu Blanc de Benny Gantz et le Likoud de Benjamin Netanyahou. Mais qui pour diriger, c'est toute la question. Portrait d'un homme au pouvoir limité en temps normal, mais qui dispose aujourd'hui d'une vraie influence politique. Frédéric Mettezo.
Reuven Rivlin, 80 ans, c'est l'anti-Netanyahou à droite. Chaleureux, il met ses interlocuteurs à l'aise quand le Premier ministre aime jouer du rapport de force. Leur père était de grands universitaires, celui de Netanyahou, un historien profondément anti-arabe, celui de Rivlin, un linguiste qui a traduit le Coran et les Mille et une Nuits en hébreu, et cela se retrouve aujourd'hui. Netanyahou voit les Arabes israéliens comme un ennemi intérieur, et Reuven Rivlin prône leur stricte égalité avec les Juifs. Voilà pourquoi Netanyahou a tout fait pour que Rivlin ne soit pas élu président, et depuis, ce dernier égratigne régulièrement le Premier ministre.
Je vous assure que nous pouvons et que nous devons conduire un État juif et démocratique, qui n'en sera pas moins juif ni moins démocratique.
Rivlin est un faucon intraitable avec l'Iran et opposé à un État palestinien, mais il défend aussi l'État de droit et la liberté de la presse, alors que Netanyahou a les magistrats et les journalistes en horreur. Les deux hommes s'accordent sur un point, Rivlin est végétarien depuis plus de 50 ans et Netanyahou ne mange presque plus de viande, mais il a encore l'appétit du pouvoir et espère bien que son vieux rival ne lui barrera pas la route. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et on reparle aujourd'hui de la consigne des bouteilles en plastique en France. La mesure est inscrite dans le projet de loi anti-gaspillage examiné à partir de ce soir par les sénateurs, mais elle ne fait pas l'unanimité. Les collectivités locales et la puissante fédération des entreprises de recyclage sont contre. Elle va, disent-ils, perturber tout le système actuel de collecte, de tri, les fameux bacs jaunes. Mais derrière la question écologique, il y a aussi des enjeux financiers. Que va devenir, par exemple, Sandy Dauphin, la cagnotte des consignes non réclamées?
Le but de la consigne des bouteilles en plastique est de booster leur taux de collecte à 90% en 2029 contre 57% aujourd'hui. Si ce but est atteint, il restera quand même 10% de bouteilles que le consommateur ne rapportera pas, même s'il a payé 15 centimes d'euros de consigne à l'achat. Qui va récupérer cette cagnotte de plus de 200 millions d'euros? Fait mine de demander l'Association des maires de France, opposée au système de consigne des bouteilles en plastique, Nicolas Sauret.
Le flux financier généré par la consigne, c'est environ 2 milliards d'euros. Et donc on estime que 10% de ces 2 milliards, c'est-à-dire 200 millions d'euros, ne seront jamais récupérés par les consommateurs qui ne rapporteront jamais leurs bouteilles en plastique. À qui ça appartient? Et il nous est répondu pour l'instant, bien aux producteurs de boissons, d'eau minérale, et nous disons que c'est pas possible.
Une présentation simpliste, répond Jacques Vernier, auteur d'un pré-rapport sur la consigne. Le seul moyen, dit-il, d'arriver à un taux de collecte de 90% de bouteilles en plastique.
Les sommes des consignes qui n'auront pas été réclamées, elles serviront à financer les dépenses, ramasser les bouteilles, financer leur transport. Les producteurs de boissons ne gagneront rien du tout.
Mais son rapport précise aussi que pour être efficace, le système de consignes doit prévoir des sanctions financières quand l'objectif du taux de collecte des bouteilles n'est pas atteint.
Et on termine avec la nouvelle bataille de Marc Vera contre le guide Michelin.
Depuis 9 mois, le torchon brûle entre le chef étoilé et le petit guide rouge. Depuis que le restaurant, la Maison des Bois en Haute-Savoie a perdu sa 3e étoile, une immense déception pour l'homme au chapeau et son équipe, une immense déception et une décision incompréhensible. Marc Vera a donc décidé d'attaquer en justice le guide pour connaître les raisons exactes de son déclassement.
J'ai été déshonoré, mon équipe je l'ai vu pleurer, j'ai tous les chefs qui ont travaillé dans les 3 étoiles, on a formé un tas de chefs à travers le monde et se voir comme ça sans aucune prévention, sans aucune écriture, sans rien. Du jour au lendemain, on vous appelle un soir, on vous dit, tac, c'est fini. Non, ça ne marchera pas comme ça. On ne prend pas en otage les gens comme ça. Ah, ils m'en ont sorti des belles, moi. J'ai utilisé, paraît-il, une recette qui nous a déstabilisé la maison, qui est une recette à base de cheddar, moi qui ai défendu toute ma vie, la pomme de Savoie, le reblochon, le beaufort, je fais une émulsion. Et dedans, je mets du safran. Et le monsieur qui est venu, il a cru que c'était du cheddar parce que c'était jaune. On appelle ça connaître le terroir. Non, mais on marche sur la tête, quoi.
Marc Vera, interrogé par Nicolas Théillard. Plus modestement, c'est aujourd'hui que commencent les réservations de l'opération Tous au restaurant, qui permet de ne payer qu'un menu pour deux. 1800 restaurants offrent ainsi le 2e couvert. L'opération se déroulera du 30 septembre au 13 octobre.
Merci Agnès Soubirand.